Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Il faut entre autres le dialogue pour récupérer les territoires de la RDC occupés et préserver l'unité nationale. C'est ce que propose le cadre de concertation nationale de la société civile au gouvernement congolais. Appel lancé hier à Kinshasa à l'issue d'une session plénière. À Bounia, l'installation de quelques tentes à la base logistique de la MONUSCO a suscité des interrogations chez certains habitants et généré beaucoup de fausses rumeurs dans la ville. Afin de couper court aux rumeurs, une délégation du Parlement des jeunes notamment a été invitée hier à la base logistique de la MONUSCO, le point dans ce journal. Et puis, à Kinshasa, des cas de braquage signalés récemment dans les communes de Matete et Lingwala ravivent les craintes des Congolais. Pour en parler, nous recevons Diabanza Mwananene. L'élu provincial de Matete parle de l'apport des députés provinciaux pour faire revenir le calme. À tous et à toutes, bonjour. Le cadre de concertation nationale de la société civile recommande au gouvernement congolais de s'engager activement dans toutes les voies possibles, y compris le dialogue pour récupérer les territoires occupés et préserver l'unité nationale. Appel lancé hier jeudi à Kinshasa à l'issue de la session plénière des 26 coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale de cette structure citoyenne. Le cadre de concertation nationale de la société civile dénonce et condamne par ailleurs ce qu'il qualifie de dissémination des messages de haine utilisés par les ennemis comme arme de guerre. Écoutez à ce sujet, Maître Shadrach Mukad, Mwai and Now, coordonnateur provincial du cadre de concertation du Lualaba, propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Tout en apportant notre soutien total au FRDC et à nos vaillants patriotes Wazalendo, nous dénonçons les actes de trahison et de corruption qui gangrènent notre armée. Nous saluons les efforts diplomatiques du gouvernement et soutenons les résolutions du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025 en insistant sur la cessation immédiate des hostilités. Il s'observe la dissémination des messages de haine utilisés par l'ennemi comme arme de guerre en s'appuyant sur les clivages tribalo-ethniques. Au gouvernement congolais de s'engager activement dans toutes les voies possibles, y compris les dialogues, pour récupérer les territoires occupés et préserver l'unité nationale, car le Congo doit rester un et indivisible. Les coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile s'engagent à mobiliser leurs provinces pour une solidarité et une unité nationale renforcée face aux défis que traverse la République démocratique du Congo.
Pendant ce temps, des États africains tels que le Burundi, l'Afrique du Sud et le Malawi qui participent directement aux opérations militaires pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC sont montés au créneau le mercredi 19 février devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre en exergue leur piste de solution pour une sortie de crise. Billy Van Lutumba nous en dit plus.
D'emblée, le Burundi rappelle qu'il intervient dans cette crise en RDC en sa qualité de signataire d'un accord bilatéral avec la RDC conclu le 20 mai 2023. Ce pays voisin se dit préoccupé par ce conflit qui persiste dans cette partie de la région des Grands Lacs. C'est partant de ce constat que le Burundi propose un plan de paix qui repose sur 5 axes parmi lesquels
il est impératif que la communauté internationale, y compris les Nations Unies et les acteurs régionaux, s'engage de manière urgente pour prévenir l'escalade du conflit en RDC et nous appelons à une réponse rapide, cohérente et déterminée pour éviter un embrasement régional dont personne ne peut prédire avec précision les conséquences sécuritaires et humanitaires dans la région avec des ramifications possibles sur les autres régions du continent. Il est nécessaire que les forces étrangères non invitées, y compris celles du Rwanda, se retirent immédiatement de la RDC et respectent son intégrité territoriale. Quant au M23, il est impératif que ce groupe, s'il se revendique congolais, intègre le processus de paix intercongolais sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta. Il est crucial de renforcer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et d'assurer un financement suffisant pour les opérations de paix en Afrique.
Sur un autre plan, l'Afrique du Sud et le Malawi qui interviennent en RDC pour le compte de Sami Diarsi déplorent la perte de leurs militaires tués au front et insistent pour une solution diplomatique et politique, en l'occurrence la fusion des processus de Luanda et de Nairobi.
Par ailleurs, les États-Unis imposent des sanctions contre James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, ancien général de l'armée rwandaise, et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23. Ces mesures publiées hier visent à sanctionner leur rôle dans l'instabilité dans l'est de la RDC. Compte rendu de ce communiqué avec Lievin Mbwinga.
L'annonce a été faite dans un communiqué du Trésor américain. Selon ce document, James Kabarebe est accusé d'être au cœur du soutien apporté par le Rwanda au mouvement du M23, un groupe armé qui a rapidement étendu son contrôle territorial dans l'est de la République démocratique du Congo et qui est responsable de violations des droits de l'homme. Les États-Unis dénoncent également le rôle économique du ministre rwandais, affirmant qu'il assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de l'armée rwandaise au groupe armé M23. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minérales de la RDC, détaille ce communiqué. De son côté, Laurence Kanyuka, de nationalité congolaise et britannique, est sanctionnée en tant que porte-parole du M23. Bradley Smith, sous-secrétaire d'État par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que l'action de ce jour souligne notre intention de demander des comptes aux principaux responsables et dirigeants comme Kabarebe et Kanyuka qui permettent à l'armée rwandaise et au M23 de mener leurs activités déstabilisatrices dans l'est de la RDC. Ces sanctions entraînent le gel de tous les biens et intérêts de James Kabarebe et Laurence Kanyuka aux États-Unis.
Direction l'Ituri, l'installation de quelques tentes à la base logistique de la MONUSCO à Bunia a suscité des interrogations chez certains habitants et généré beaucoup de fausses rumeurs dans la ville. Certains ont affirmé que ces tentes sont construites pour faciliter le désarmement des militaires des FARDC à la suite d'un tweet du général chef d'état-major de l'armée ougandaise, tweet qui est devenu viral dans les réseaux sociaux. Afin d'apaiser les esprits et couper court aux rumeurs, une délégation du Parlement des jeunes et des conseils urbain et provincial de la jeunesse a été invité hier jeudi à la base logistique de la MONUSCO. Ézéchiel Mouzalia, reportage.
Après un entretien d'une heure et demie avec le responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, la délégation s'est rendue à la base logistique de la MONUSCO où elle a pu visiter la dizaine de tentes en cours d'installation, des tentes destinées à servir d'abri au personnel de la mission onusienne en cas d'urgence dans la ville. À l'issue de la visite, Jacques Pellé, le président du conseil urbain de la jeunesse, en a profité pour rappeler la population en général, des jeunes en particulier, à faire très attention aux fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux et qui peuvent susciter des tensions dans la communauté.
Nous avons commencé d'abord par échanger avec l'ingénieur. Selon le plan, il y a 15 tentes qu'on devrait construire ici. Ils ont déjà construit 10. On ne doit pas vraiment céder à cette manipulation. Nous sommes venus lancer ce message fort que les gens ne se laissent pas manipuler par des réseaux sociaux qui sont en train de détruire la province de l'Ituri.
Notez qu'à l'issue de cette visite, il a été décidé d'organiser une journée portes ouvertes dans les prochains jours avec d'autres jeunes de la ville et toute autre personne désireuse de s'imprégner de la situation de cette histoire banale des tentes qui a suscité des fausses rumeurs dans la ville, indique le chef de l'information publique de la MONUSCO, Jean-Toby Okala. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les habitants sont appelés à l'apaisement et à éviter de tomber dans l'intoxication ainsi que la stigmatisation. L'appel est du gouverneur de la ville à l'issue d'une réunion de sécurité mercredi avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que des services du secteur. Daniel Bumba rassure que la situation sécuritaire de Kinshasa est calme et que toutes les mesures sont prises pour qu'elle le demeure. Concernant les braquages enregistrés depuis quelques semaines, le gouverneur annonce que les enquête se poursuivent et annonce qu'un premier groupe est déjà aux arrêts. Suivez cet extrait du message du gouverneur Daniel Bumba, choisi par Babel Mpongo Massimango.
Il s'est propagé beaucoup de faux bruits pour instaurer la psychose, l'intox. Nous profitons de l'occasion pour presser la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. Kinshasa est stable. Nonobstant quelques faits bénins, des braquages, des infiltrations non autrement identifiées, des enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement, à vaquer librement à leurs occupations. Toutes les solutions sécuritaires sont prises. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures. Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Ce sont des faits bénins. Bien qu'on a observé quelques jours les braquages, il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice. Nous allons vous les présenter d'ici peu. Nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Parlant des bandits, justement, notez que 304 délinquants, communément appelés Kuluna, ont été transférés mercredi vers la prison de Luzumu au Congo central. Selon le ministère de l'Intérieur, cette opération s'inscrit dans le cadre de la double opération Ndobo et Zéro Kuluna. Détail avec Blaise Nongalamaenda.
Cette opération de transfèrement est menée concomitamment par le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice et Garde des Sceaux. Ce transfert s'inscrit dans une stratégie plus large visant à désengorger les cellules de la police, souvent surpeuplées, et à prévenir des éventuelles évasions. Certains détenus transférés sont des repris de justice, tandis que d'autres attendent encore leur jugement dans le cadre des audiences foraines organisées par la justice militaire. Ce coup de filet a été mené dans le cadre des opérations d'Obo et Zéro Kuluna, mis en place par le gouvernement pour éradiquer les phénomènes Kuluna. Pour sa part, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a insisté sur la fermeté du gouvernement face à ces fléaux. Il a également indiqué que le gouvernement souminois a fait de la sécurité des citoyens une de ses priorités absolues, rappelant que d'autres actions vont suivre pour restaurer l'ordre public à Kinshasa comme dans les grandes villes du pays. De leur côté, le défenseur des droits de l'homme estime que la solution ne peut être uniquement répressive et plaide pour des programmes de réinsertion afin d'empêcher les jeunes de replonger dans la criminalité.
Province du Maniema, le chef de l'exécutif provincial a clôturé mercredi 19 février la série de conférences qui s'étenaient sur l'environnement, l'agriculture, le tourisme et l'eau. Selon l'autorité provinciale, au cours de ces assises, un diagnostic approfondi de ces secteurs a été fait et des recommandations formulées seront transformées en projets bancables. On écoute à ce sujet le gouverneur du Maniema, Moussa Kabouankoubi Moïse, au micro de Florence Kizalunga.
On organise ces conférences pour faire un diagnostic approfondi de ce secteur. Parce que souvent, les bailleurs nous amènent des documents qu'ils ont rédigés dans des bureaux climatisés où il n'y a pas un processus participatif. Mais ici, on a associé et la société civile, et les confessions religieuses, et la Fédération des entreprises du Congo, et les acteurs des droits de l'homme, les mondes universitaires, les bailleurs des fonds, les partenaires au développement. Comme ça, nous passons ensemble en revue les problèmes des secteurs et nous allons ensemble retenir les recommandations que nous allons transformer en projet bancaire. Par rapport aux recommandations de la première conférence, c'est à l'issue de la conférence que les miniers s'étaient engagés à nous accompagner dans la réhabilitation des routes. Et là, pour votre information, nous venons de réhabiliter 135 km de routes de Pounia jusqu'à Lubutu. Donc, la population n'a pas, comme je l'ai dit toujours, ne va pas manger les Français. La population a besoin de l'emploi, du travail, de l'eau, de l'électricité, des routes. Voilà notre combat, il n'y a pas d'autre.
Et puis cette nouvelle en plus bref, en Ituri, la réserve de faune à Okapi, RFO, a procédé mardi à la capture d'un Okapi à Ipulu dans le territoire de Mambasa. C'est le tout premier Okapi capturé depuis 12 ans. Des sources internes de la RFO rapportent que cette espèce rare au monde a été attrapée dans un piège dans la localité de Babukeli, à environ 200 km de la ville de Bunia. Rappelons qu'en 2012, 15 Okapi en captivité sur le site avait été massacré par l'ancien chef milicien Morgan Sadala.
Actualité internationale.
Ouverture hier à Johannesburg en Afrique du Sud du sommet des ministres des Affaires étrangères du G20. L'Afrique du Sud prenant la présidence du groupe en 2025. C'est le président Cyril Ramaphosa qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le président sud-africain a prononcé un discours dans lequel il a énoncé ses propositions face aux défis auxquels le monde est confronté. Les conflits entre la Russie et l'Ukraine, les conflits qui font rage dans l'est de la RDC, au Soudan, au Sahel et à Gaza, continue d'entraîner des lourdes pertes humaines et d'aggraver l'insécurité mondiale. L'Afrique du Sud se félicite de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, qui constitue une première étape cruciale pour mettre fin à la grave crise humanitaire à laquelle est confrontée la population palestinienne de Gaza, a dit le président sud-africain.
L'invité.
Alors que l'insécurité continue de préoccuper les habitants de Kinshasa, des cas de braquage dans la commune de Matete et récemment à Lingwala viennent de raviver les craintes des Congolais. Quelles sont les réponses des autorités face à ces incidents? Comment les députés provinciaux peuvent contribuer à faire revenir le calme? Ben Chokuta s'est entretenu à ce sujet avec Diabanza Mwananene, élu provincial de Matete. Suivez.
Bonjour Monsieur Diabanza Mwananene.
Bonjour. Actuellement, à Kinshasa, il y a le problème de l'insécurité qui commence à prendre de l'ampleur, et plus particulièrement le braquage. Quel est votre avis par rapport à tout ce qui se passe?
Je me dis quelque part, cette déliquescence sécuritaire est de la responsabilité première de nous politiques. Il y a un problème avec la culture politique congolaise. On refuse réellement d'accepter la démocratie telle qu'il le faut. Il y a beaucoup de politiciens véreux qui sont en train de croire qu'il est important dans le contexte de notre pays, après les élections, qu'il y ait de dialogue, un autre dialogue. Et je suis d'avis, et je crois, beaucoup de gens doivent aussi le comprendre, c'est quelque chose de voulu, de la manipulation, pour la simple bonne raison que l'on veut réellement créer une certaine psychose. Je profite encore une fois de plus pour interpeller réellement les ministres de l'Intérieur. Même si nous le savons tous, il y a de ceux-là qui sont en train d'estimer qu'il doit y avoir nécessairement un dialogue. Il faut aussi qu'ils puissent prendre à bras le corps ses responsabilités. Nous devons anticiper, en tant qu'organisation étatique, anticiper et mettre hors état de nuire tous ceux-là qui sont en train d'estimer que dans le contexte actuel, le meilleur moyen d'exprimer leur opinion, c'est la violence, le vandalisme et se mettre dans le crime organisé.
À vous entendre parler, c'est comme si vous reliez les braquages qui a eu lieu à Lingwala particulièrement et puis ici, devant le marché de Matete, c'est comme si vous voulez le relier à tout ce qui se passe dans l'est de la RDC.
Je vous assure, ce qui se passe à l'est de la RDC, oui, il y a cette dimension de Kagame, mais il y a une dimension du politique congolais en mal de positionnement qui est en train de croire pour lui. Avant de rentrer aux affaires, il faut créer le désordre pour qu'il y ait nécessairement un dialogue. Et les dialogues, nous en avons connu. Et le politicien congolais, malheureusement, il n'est pas suffisamment rodé dans l'exercice démocratique.
Et vous, en tant que député provincial, quelle initiative avez-vous prise ou quelle initiative soutenez-vous au Parlement et pour mettre fin à cette insécurité?
Durant cette vacance parlementaire, je crois que chacun d'entre nous est en train de travailler parce que nous ici, nous étions déjà victimes. Ici, chez nous, à Kinmarché, nous étions déjà victimes. Et de ce que nous avons réellement vécu, nous avons tenté déjà de saisir l'Assemblée provinciale lors de notre rapport aussi. Par rapport aux vacances parlementaires, c'est un document que nous allons réellement introduire qui va faire allusion de ce que nous avons vécu ici chez nous. Et par rapport à cela, c'est sûr que le ministre de l'Intérieur provincial sera interpellé parce que le ministre de l'Intérieur provincial nous doit aussi des explications. Comme je suis en train de les dire, ils sont dans l'obligation d'anticiper.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes les opérations qui ont été lancées avant même qu'il y ait la récrudescence de braquage? Opération Ndobo et toutes les autres opérations. Est-ce qu'on peut sentir une efficacité par rapport à cela?
Oui, l'opération Ndobo, Zéro Kuluna, a donné de ses fruits. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est tout à fait différent du phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna, ce sont de jeunes gens qui ne sont pas professionnels, qui opèrent avec des armes blanches. Mais ici, nous sommes en train de voir réellement des gens qui sont en train d'opérer avec des armes à feu. C'est deux situations différentes. Et par rapport aux images qui sont en train de circuler, s'il faut réellement observer, vous remarquerez que ceux-là qui sont en train d'opérer sont beaucoup plus de gens très âgés, à la différence avec le jeune gens du banditisme urbain, communément appelé Kuluna.
Bon, pour finir, est-ce qu'il peut y avoir une collaboration, vous proposez une collaboration entre le gouvernement et la population, mais aussi toutes les couches de la société civile?
Dans le contexte actuel, nous devons réellement nous souder en premier lieu en tant que peuple, parce que vous devez comprendre, les dangers qui sont en train de nous guetter ne va seulement pas concerner la population, c'est aussi nous le politique, parce que nous vivons avec eux, nous ne vivons pas dans la planète Mars. Il est important dans le contexte actuel que nous puissions réellement nous unir, lever les options. Cette cohésion nationale, nous en avons besoin. Il faut la vigilance de la population dans la ville-province de Kinshasa.
Merci à vous, monsieur le député provincial Diabanza Mwanene.
Notre invité répondait aux questions de Ben Chokuta. Par ici prend fin ce journal coordonné par Lievin Bwinga, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de rester branché en compagnie de Baya Tchamala.